retrouvez toutes les émissions en podcast sur breastless.com.
Bienvenue à vous toutes et à vous tous dans le grand débat visuel-musique.org. Aujourd'hui, encore une fois, Marc de Visuel, bonsoir.
Salut Pierre, comment tu vas ?
Très très bien, merveilleusement bien, que de la joie, du bonheur, puisque tu es là. Tu vas nous proposer quel sujet ?
Alors quel sujet aujourd'hui ? On va se parler de shoegaze. L'idée est simple.
Ça commence bien.
C'est vrai qu'à chaque fois qu'une émission commence, c'est toujours
Donc ouais, je me suis dit qu'on allait parler shoegaze aujourd'hui, parce que entre les disques que j'écoute et les lives que je vais voir, je me dis qu'on mange quand même pas mal de shoegaze en ce moment, à tort ou à raison, qu'on le veuille ou non. Et donc je voulais me poser la question de savoir c'est quoi le délire avec le shoegaze en ce moment. Donc pour répondre à ça, on a un troisième intervenant. Ce troisième intervenant, vous le connaissez tous. Nous aussi, on commence à le connaître de plus en plus et on se demande encore pourquoi il est autour de la table.
Je sais pas pourquoi tu lèves les yeux au ciel, mais bon.
Nikolaï Lewandowski, comment tu vas, Nikolaï ?
Eh bien, écoute, merveilleusement bien, j'ai envie de te dire, quand je suis dans cette salle, tu vois, la magie opère. Voilà.
Cette salle noire,
on va dire ça,
dont on ne connaît ni l'heure, ni le lieu. Donc, Nikolaï.
S-O-S.
Vous avez bien fermé les verrous derrière la vue, c'est bien. Donc bref, Nikolaï, tu officies toujours chez Mono.
Toujours chez Goodmedisc, ouais. D'ailleurs, voilà. Goodmedisc, on a refait une petite charte graphique. Donc n'hésitez pas à dire tout le monde ce que vous en pensez. Et Mono, ben là, le nouveau numéro de la revue est toujours d'actualité. Donc commandez, ça va arriver très bientôt.
Oui, c'est une livraison juin 2024, je voyais tout à l'heure.
Ça va arriver là.
Et ouais. Le prochain sera pas avant la rentrée, quoi.
C'est exactement ça, ouais. On bûche déjà dessus, donc le sommaire sera bien fat comme d'habitude.
Et Mono, ça s'écrit M-O-W-N-O.
C'est ça.
Merci pour la précision, c'est vrai.
Non, mais il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est possible. Hein.
Merci Bernard Pivot.
Si ça se trouve, il y a des gens.
Voilà, on rigole d'une blague nulle. Mais ils sont intelligents tous les deux, hein, quand même. Ne croyez pas.
Alors, on va se parler shoegaze. Comme je le disais, donc c'est souvent cité dans les influences de beaucoup d'artistes depuis un paquet d'années. Mais comme on va le voir aujourd'hui, le mouvement, il est vraiment maintenant de retour. Et ça nous vient surtout des États-Unis. Mais on va vous expliquer pourquoi, comment, etc.
Donc, déjà, c'est quoi le shoegaze,
hein ? Voilà, merci de cette transition. J'allais attaquer sur le sujet. Ça vient d'où ? Le shoegaze, donc ça vient du Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Et donc, c'est un jeu de mots, shoe pour chaussure et gazing pour gaze at, donc regarder et fixer. Donc, c'est un jeu de mots qui est né, en fait, d'une review d'un gars maintenant qui s'appelle Steve Lamack, qui est un grand ponte de la BBC et de la découverte musicale, et qui, à l'époque, bossait pour le NME, qui était en train de regarder un concert d'un groupe qui s'appelle Muse. Et en fait, ça le faisait chier. Il trouvait que les gens étaient très timides et passaient leur temps à regarder leur pompe. Et c'est comme ça qu'est véritablement né le mot shoegaze. Donc, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se cache derrière un mot qu'on traîne depuis plus de 30 ans maintenant.
Et c'est aussi parce qu'en général, les groupes de shoegaze utilisent énormément de pédales d'effet. Donc, en fait, ils sont littéralement... Ils ont toujours littéralement les yeux cloués sur leurs pédales et du coup par terre et voilà, à leur pompe, quoi.
C'est marrant parce que moi j'ai toujours cru que c'était des gens qui fumaient trop de joints.
Ah bon ?
Ben parce qu'ils s'envolent, quoi. Il y a quelque chose de brumeux, tu vois. C'est dans mon idée, voilà, je me limite à ça. Vous voyez mon intelligence. Ouais. Non mais ok, c'est un mec qui a dit ça pour se foutre de leur gueule, entre guillemets, parce que c'était sûrement gentil. Mais du coup, ils ont beaucoup d'humour parce qu'ils ont gardé ça. Alors que c'est une musique assez triste, globalement, non ?
Musique assez mélancolique, assez nostalgique, oui, avec, comme tu le disais, énormément d'utilisation de pédales à effet au niveau des guitares, des voix qui sont assez brumeuses, on dira éthérées, qui sont vraiment noyées avec les instruments.
Dans la guitare.
Et c'est ce qui fait que tu as une espèce de mur du son qui se forme, en fait. Normalement, toi, si ça te parle, t'es englobé, et puis si ça te parle pas, t'es juste dehors. ça s'est passé majoritairement entre 88 et 92. Il y a eu trois groupes majeurs qui sortent tout le temps, et on va beaucoup les évoquer parce que c'est à la fois les pionniers et ceux qui ont généré beaucoup d'influence, que ce soit dans le shoegaze ou pas.
Et c'est toujours les mêmes en 2024,
d'ailleurs. C'est toujours les mêmes aujourd'hui, donc c'est My Bloody Valentine, Slowdive et Ride. Moi, je voulais vous poser cette question personnelle, comme d'hab, pour commencer. C'est quoi, vous, votre rapport avec le shoegaze ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous parle pas ? Est-ce que c'est un truc qui vous a parlé rapidement et vous avez écouté ? Ou est-ce que c'est un truc qui, de base, vous a pas parlé et vous êtes resté à côté.
Moi, c'est un truc qui m'a énormément parlé quand j'ai commencé à vraiment écouter tout ce qui est rock indé alternatif et le délire de la voix noyée dans les guitares et les Larsen. Le côté on prend son temps, c'est des longues chansons, ça plane. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que soit t'es emporté dans le truc ou soit tu te fais chier comme un rat mort, quoi. T'as pas d'entre-deux avec le shoegaze. Et j'aime bien ce côté extrémiste du... Et ça peut varier d'un album à l'autre ou d'un concert à l'autre. Tu peux autant te faire chier, mais vraiment. Mais... Ou alors, genre, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Et c'est ça que j'aime bien avec le shoegaze. Et la base, pour moi, ça a été vraiment ma Bloody Valentine. En fait, un peu, je suppose, comme 95% des gens... My Bloody Valentine, c'est vraiment, ça a été, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi.
Ça bah, tout le monde connaît ce nom, même s'ils ne connaissent pas forcément le shoegaze. C'est un nom qui revient.
Oui, parce que c'est énormément de groupes aussi qui se revendiquent de My Bloody Valentine en tant qu'influence, parce que c'est un groupe qui a réussi à créer un son, un truc très particulier.
Un univers, ouais,
et un carrément. Univers aussi visuel. C'est vrai qu'ils ont posé les bases aussi bien pour la partie esthétique. D'avoir des aplats de couleurs avec du grain, avec du flou et quelque chose de, comme tu le disais tout à l'heure Pierre, brumeux. Je pense que c'est très bien résumé, c'est juste brumeux, tu sais pas exactement ce qui se passe, comment ça a été fait, etc. Mais voilà, c'est là. Et toi Pierre, du coup, tu en as écouté un
peu ? Moi je suis complètement d'accord. Alors moi je suis pas un grand fan de shoegaze, mais je suis d'accord avec ce que tu disais. Avant, ce que je veux dire, c'est que quand j'étais jeune, c'est vraiment un style de musique qui me faisait chier. Ma Bloody Valentine, non mais j'avais beaucoup de potes qui écoutaient ça, enfin surtout des copines, et je trouvais ça super chiant. J'avais envie d'un truc qui pétait, j'avais envie d'un truc qui pouvait me faire m'amuser, danser. Mais ça, je n'ai jamais compris jusqu'à ce que je devienne un peu plus adulte et que je fasse « Ah, mais en fait, c'est cool, il y a quelque chose d'intelligent, il y a une recherche et surtout, il y a un apaisement, il y a un truc qui nous emmène dans l'aventure du groupe. » Alors, et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a des groupes qui font du shoegaze où c'est chiant à mourir, mais il y en a d'autres, c'est absolument merveilleux, ça t'entraîne, ça te porte dans un truc. Et je pense que tout le monde peut être touché par le shoegaze parce que ça doit être un gros mur de son, c'est très romantique, poétique, il y a quelque chose de merveilleux, un peu comme si c'était intouchable, vraiment ce côté brumeux, il revient même dans ce... Ouais. Il y a une histoire qui est triste, mais c'est l'esprit, ça nous emmène dans quelque chose d'assez magique. Alors après, il y en a quand même pas mal que c'est de la merde.
et du coup, le shoegaze qu'il y a de bien, et aussi, enfin, c'est le défaut aussi, enfin, c'est qu'en live, c'est un P près, le son doit être parfait. Sinon, en fait... On va dire, si t'écoutes du punk ou du hardcore, ou je sais pas, bon, le son est pas terrible, allez, ça, voilà, il y a l'ambiance, tu fais des saltos, ouais, t'es content
technique.
Quand même.
Mais c'est ça que tu veux dire?
C'est le son est primordial, en fait. Si t'es pas happé dans le truc un peu de, tu vois, ambiance rêveuse, un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe, là, c'est... Si c'est pas vraiment carré, le son... tu passes vite à côté.
Ça peut vite être plat, en fait.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment essentiel, quoi. Le son fait vraiment tout.
Après, t'as des groupes de shoegaze qui ont quand même une certaine dynamique. Je veux dire, c'est pas uniquement un truc constant, plat, qui bourdonne. C'est pas que ça.
Ah, mais du coup, quand ça commence à s'énerver, il faut que le son suive, en fait. Parce que si tu commences... Déjà que les guitares sont noyées, t'entends pas trop la voix. Si en live,
il y a un niveau, je pense. Il y a un niveau aussi auquel il y a une tolérance de ce mélange. C'est-à-dire que des fois, il y en a qui abusent, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement aller loin dans le shoegaze que t'entends juste.
Ouais, voilà, bah c'est ça. C'est dur à jongler entre.
Mais c'est ça qu'on va voir, en fait, c'est qu'il y a aussi différents styles de shoegaze dès le début et qui aujourd'hui aussi évoluent énormément avec les groupes très récents qui ont pu en faire. Des groupes plus ou moins connus, mais vous entendrez dans les noms qu'on va citer, des groupes quand même assez populaires aujourd'hui.
Ah oui, oui. Mais il y a des étiquettes en autres que shoegaze, c'est-à-dire il y a des sous...
Oui.
Ah oui, sérieux.
On va parler de dream pop.
Voilà, on va pouvoir en parler. D'ailleurs,
ça, c'est vraiment chiant, ça.
ça peut l'être, en effet. Donc, on va pouvoir aussi revenir au début du shoegaze, comment c'est né, enfin, pas vous donner les détails techniques, etc., mais par qui c'est influencé. Alors, principalement, les trois groupes qu'on a cités tout à l'heure, donc Ride, The Slow Dive et My Bloody Valentine, ils ont été influencés par les mêmes groupes. C'est plus ou moins les Smiths, les Cure, Succeed in the Banshees, Killing Joke, les Cocteau Twins, et aussi
des gens heureux quoi.
Voilà, que du fun. Globalement que du fun, de la rigolade,
du maquillage dégueulasse et puis des cheveux noirs quoi. Bon,
voilà. Et des corbeaux perchés sur
des gens mélancoliques. <C'est ça. rire> et aussi on y retrouve des influences un peu plus lointaines mais dans le son quand même de Velvet Underground, de Sonic Youth, de Dinosaur Junior ou de Scordew pour ceux qui sont vraiment calés. Moi, avant de continuer à étaler la science que j'ai pu trouver sur les internets, j'avais une petite question qui est une énumération. Alors, je vais vous donner le droit de me citer des noms de groupes et d'artistes qui sont associés au shoegaze de manière plus ou moins large. Donc, il y a les trois évidents que je vous ai dit. Et donc, chacun à votre tour, vous allez essayer de me citer un groupe.
Gagner, lui. Moi, je retiens jamais les groupes.
Non, mais c'est un exercice qui est hyper compliqué, en fait. Moi, je vous le dis tout de suite, vous allez galérer. Mais je vous laisse, 30 secondes, parce que je pense que ça va pas durer plus longtemps.
Aussi, lui, je
pense non, Pierre, vas-y, commence.
Périche. Bah, c'est pas connu, mais c'est français. C'est
Non, mais c'est français.
Le Drop 19s.
Ouais.
Soft Cult.
Ah oui, peut-être, oui. Ouais, je l'avais pas vu là, mais. Allez.
Non, mais t'as le droit de dire non.
Allez, on passe.
T'as Lush.
Ouais.
Ah putain, ouais. Mais ça, toi, tu donnes des trucs connus. Moi, j'ai des trucs qui sont actuels qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas. Après, moi, il y a plein de groupes, je sais, qui utilisent des techniques du shoegaze, mais qui ne font pas du shoegaze.
Ouais.
Je dirais Deftones parce que quand ils chantent, c'est un peu de shoegaze, mais c'est pas du tout du shoegaze, quoi.
T'as raison d'en parler de Deftones parce que Deftones vit une vie parallèle grâce au shoegaze depuis quelques années et on en parlera plutôt vers la fin du podcast.
Moi, je suis perdu, j'ai déjà perdu. Hein, donc
après, si tu veux rester dans les trucs francs, enfin, si on veut faire un peu cocorico, t'as les Brian's Magic Tears, par exemple, qui est un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup dans la scène française.
Oui, tu as raison.
J'avoue que non, je sais pas, je panique.
Mais
la chanson en même temps.
Y a la sueur coule, la joie.
mais c'est de l'eau, mais. Mais nous avons les pieds dans l'eau. Donc il y a énormément de groupes qui sont associés à ça, mais vraiment de manière plus ou moins proche. Dans les grands noms du début du mouvement, t'as Swear Drivers,
vraiment très très bon.
T'as de Jesus and Mary Chains.
Ouais, c'est vrai.
Galaxy 500.
Sacred Candy, c'est un des meilleur album de rock de tous les temps, tu vois. C'est...
Jesus and Mary Chain, j'aurais jamais mis ça dans le shoegaze, c'est marrant, tu vois.
Il y a des délires un peu shoegaze, mais c'est ça en fait, le shoegaze c'est comme le post-punk, tu vois. Tout est post-punk,
c'est ça. Ouais, c'est vrai
tout
que
est shoegaze, à partir du moment où tu utilises des pédales d'effet, où tu fais ouf, dans ta musique, bon bah voilà, c'est du shoegaze.
C'est ça.
Physiquement, s'est passé quelque chose. Hein,
Et c'est pourquoi je voulais faire ce petit exercice-là, parce que c'est hyper dur de citer des groupes qui sont shoegaze, mais en fait, quand on regarde...
Tu dis Lana Del Rey, quoi, tu vois ce que je veux dire?
Non. Donc, je vous propose en fait d'aller sur quelques anecdotes notables de la scène shoegaze qui ont marqué l'époque au début et qui font partie aujourd'hui de l'évolution du truc. Donc, comme toutes les scènes, il y a un sens de la communauté avec des groupes qui vont voir le jour assez rapidement et qui vont se voir les uns les autres. Parce qu'en fait, le hasard fait que c'est plus principalement basé à Londres. Donc, ils vont tous se voir et ça a été résumé à l'époque par la scène qui se célèbre elle-même. Et en fait, c'est une scène...
la scène que personne ne veut voir, du coup, on est tout seul, on est ensemble, quoi.
Et c'est une scène, en fait, qui était considérée comme étant jouée souvent par des gens prétentieux, privilégiés et de classe moyenne.
Ouais. Ah bah ouais, mais c'est ceux qui ont le temps de pleurer, quoi.
Voilà.
Donc c'est le post-punk aussi, finalement.
J'ai trouvé ça énorme, quand même, de voir à quel point c'était quand même assez méprisé à l'époque, surtout par la presse anglaise, qui était du coup aux premières loges.
Oui, bordel, ça, c'est comme une toute nouvelle musique à chaque fois.
Ouais, mais sauf que c'est drôle, puisqu'ils étaient à la fois célébrés pour leur style musical, parce que les gros noms d'hier sont encore là aujourd'hui, il y a une raison, c'est parce qu'à l'époque, la presse était vraiment un poids dans l'influence que tu avais sur ce que les gens allaient écouter. Mais ça ne les empêche pas de ne pas les aimer humainement.
Quoi. Et puis, ils ne jouaient absolument pas aussi le jeu des médias. Quoi. C'était souvent des gars et des meufs qui n'avaient pas grand-chose à dire.
Très renfermés, introspectifs.
Très renfermés, très timides, pas beaucoup d'overdose, donc même pas d'histoire un peu rock'n'roll. Peux exploiter.
Et puis tu voyais rien non plus sur toute la partie visuelle du groupe, parce que aussi bien les clips que les pochettes, que les photos portraits, etc. tout était flou. Il y avait, comme tu dis, il n'y a pas de storytelling. Donc en fait, pour eux, c'est compliqué.
Mais ça, j'aime bien. Tout est juste centré sur la musique et basta, quoi. Il n'y a pas besoin de plus.
Je voulais qu'on revienne aussi dans les anecdotes. Loveless de My Bloody Valentine, donc qui est vraiment le premier album du groupe, qui a vraiment forgé tout le style par la suite.
Le meilleur album de shoegaze de tous les temps.
Le plus... jusqu'au boutiste, sûrement.
Je connais pas assez, donc je te fais une grimace juste pour t'emmerder, arrête un peu.
mais dans les infos qui vont autour de l'album, il y a quand même des sacrés trucs. C'est un album qui a réclamé 2 ans de travail, surtout par une seule et même personne, un bonhomme qui s'appelle Kevin Shields. Donc il aurait utilisé un pédalier d'une 30aine de pédales à effet, et c'est un disque qui a su...
Ça fait des grands pieds. Hein.
C'est ça tout le problème, en fait, il utilisait 2 pédales d'un coup, donc ça explique un peu le son de l'album. mais donc, c'est un disque qui a posé des questions, parce qu'il y a quand même une partie des clients qui l'avaient acheté qui se demandaient s'il n'y avait pas un problème avec le support physique, que ce soit le vinyle ou le CD, donc ils voulaient le rendre parce qu'ils pensaient que le son était trop voilé, pour être honnête, quoi.
c'est génial, je ne savais pas.
Et il y a aussi une chose, c'est qu'au niveau des voix, c'est un son qui est très particulier, comme on le disait, la voix elle est vraiment mêlée aux instruments, et en fait la chanteuse, donc, qui s'appelle Belinda Butcher, elle a enregistré ses prises au réveil. Donc ça explique aussi une partie du côté endormi et rêveur qu'on ressent en fait quand on l'écoute. Et c'est un disque qui à la base devait être fait en 5 jours, mais qui a pris véritablement dans l'enregistrement plus d'1 an.
Elle dormait beaucoup.
Elle était narcoleptique. Donc ça a été enregistré dans 19 studios différents. Hein. Donc avec,
sérieux ?
Ouais, autant d'ingénieurs. Et ça aurait coûté 250 000 livres. Ça aurait
ruiné... Non mais c'est fou parce que cet album il est quand même très cohérent.
Ah oui, c'est...
Non mais avec tout ça de différence et des talents, c'est quand même compliqué. Ouais. Non mais ça fait juste un bruit, donc...
Non mais refait, défait, etc.
Mais c'est le côté magique de cet album, justement. Okay. C'est... Comment ça a été fait, c'est incompréhensible, et voilà, ça n'a pas pris une ride.
Ouais. Bon, c'est le dernier grand groupe qui a mis sa patte, et puis...
Il a réussi enfin à trouver une cohérence à tout ça, et c'est un album qui aurait ruiné en partie le label qui s'appelle Creation Records, qui est le label étiqueté du shoegaze. Pourquoi ? Parce que c'est un label qui a abrité d'autres groupes comme Primal Scream, comme Jesus and Mary Chain, comme Slowdive, comme Swerve Driver, comme on les a déjà cités, qui étaient associés aussi à ce mouvement-là. Mais ça n'a pas causé que des bonheurs hein, donc d'être le label du Slowdive, parce que comme je le disais, c'est un label qui a subi aussi la longueur de l'enregistrement de l'album Loveless, et donc qui a revendiqué que sa banqueroute venait de là. Après, ses détracteurs ont dit que c'était aussi lié au problème de drogue de son patron qui s'appelle Alan McGee.
Le mec sous couvert, non mais c'est jeu. En fait ça coûtait 2000 balles le truc, c'est ça, lui qui a fait de la drogue.
Non, 250 000 dont 248 d'une substance non identifiée qu'on n'a jamais retrouvée dans le disque.
Par contre il avait beaucoup de talc sur le visage.
C'est pour ça que tout était brumeux en fait. Donc en 92, ce monsieur il a quand même réussi à vendre une moitié de son label à Sony. Donc pour éviter la banqueroute.
Ok, Sony a racheté ça. Okay.
Ouais, à moitié.
Et enfin, tu me diras, c'est l'époque. Donc.
Pour la petite histoire, ce label, par la suite, après avoir été vendu à moitié chez Sony, a signé Oasis et a sorti les 2 premiers albums d'Oasis chez eux.
Jackpot.
Donc voilà, hein, c'est quand même des succès sans précédent. C'est la plus grosse vente anglaise
Mais du coup, l'argent a encore une fois disparu.
Voilà. Bizarrement.
Mais par contre, le patron est mort.
Bizarrement, par la suite, le label a refermé. Bien sûr, Oasis a signé ailleurs pour les albums qui ont suivi. Mm. Et aujourd'hui, Alan McGee a relancé un petit frère à son label Creation Records, maintenant qui s'appelle Creation 23, et qui a essayé de monter des nouveaux artistes, des nouveaux albums et même un festival.
Toujours dans le shoegaze.
Toujours un peu dans le shoegaze, en tout cas dans un style
qui est fidèle à l'histoire de la marque.
Voilà. On n'en a pas parlé véritablement des albums historiques du mouvement. Pour toi, c'est lequel ?
Bah, on vient de le dire, c'est vraiment Loveless, mais si on doit en trouver un autre, c'est évidemment Souvlaki. Ouais.
De Slowdive, donc.
De Slowdive, qui est pareil, qui a une ambiance absolument dingue, et qui, comme My Bloody Valentine, a pas pris une ride. Tu peux le mettre là maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans.
Tu dormiras de la même manière.
Exactement. et il va te mettre bien. C'est un truc, tu l'envoies dans la galaxie, s'il y a des aliens, ça l'aimait bien aussi. C'est un truc qui parle...
On se fait chier dans cette planète, on n'y va pas.
C'est ça, en fait, c'était pour nous sauver.
Merci, Snowdive.
Et d'ailleurs, il m'a fallu longtemps pour vraiment rentrer dedans, beaucoup plus que My Bloody Valentine. Et une fois que ça a cliqué, c'était... Il n'y a pas de point de non-retour, quoi. Et c'est un peu ça, le shoegaze aussi...
Je veux dire, en fait, il faut avoir l'oreille, il faut l'éduquer, quoi, pour réussir à écouter du shoegaze correctement, je dirais. Ouais. En tout cas, en comprenant vraiment, il faut être aussi musicien, un petit peu, non ?
Non, je pense qu'il faut peut-être avoir une certaine nature mélancolique, nostalgique.
Ça peut peut-être, beaucoup, hein.
Ça peut peut-être plus marcher sur toi si t'es, si t'es un peu comme ça, de
lorsque
tendance.
Lorsque tu vas mal, le jour où il pleut, il y a de l'orage, bah, tu te mets dans le noir avec un couteau et puis une bougie, puis t'écoutes Slowdive et franchement, tout se passera bien.
En fait, je pense... Ça tient aussi à une chose, c'est est-ce que tu préfères soigner ta tristesse en écoutant déjà des gens qui pleurent assez mollement sur des nappes, ou si tu préfères la soigner en écoutant des gens qui gueulent. Et donc tout de suite, ça, tu vois,
c'est
l'ambivalence.
C'est plusieurs façons de chialer.
Ou de soigner ton mal-être.
Et puis sinon, le troisième album culte, ben c'est Nowhere de Ride, qui est sous-coté, parce que c'est vrai que Ride, c'est un peu c'est culte, mais c'est celui qu'on cite toujours en troisième, quoi. T'as vraiment les deux mastodontes, My Bloody Valentine, et puis...
je connais pas Ride.
Et Slowdive, et Ride, on a tendance un peu à l'oublier, mais Nowhere est... Je pense même que je préfère Nowhere à Souvlaki.
Mais c'est parce que Nowhere de Ride, ils sont déjà plus souples sur leurs appuis. Ils sont très vite sortis aussi du Slowdive. Ils ont pu être capables de faire des choses qui ressemblaient plus à de la pop ou à de la Britpop qui a suivi par la suite.
Ils ont commencé à faire une autre branche.
Ouais. Et ils ont été assez plus productifs dès le début, avec trois EP sortis la même année avant de sortir l'album. Donc ils étaient assez surveillés.
Avec des trucs beaucoup plus nuls à chier aussi d'ailleurs. Ce qui fait qu'ils ont quand même pas mal de bouse comparé... Comparé aux deux autres groupes.
Parce qu'ils font trop de musique, ils font trop de morceaux.
Ils ont été beaucoup plus productifs. Donc, tu t'exposes
forcément.
À.
Non, mais c'est logique, c'est statistiquement vrai pour tout le monde. Normalement.
Oh, il y a des gens qui sont très productifs et en même temps très bons. Hein. On ne les citera pas parce que
moi.
Oui, Pierre, je suis d'accord. en parlant de productivité, on peut aussi se parler de la question du succès, parce que si on parle encore de ce mouvement 30 ans plus tard, c'est qu'à un moment ça a peut-être marché.
À un moment surtout, ça n'existait plus, non ?
Oui, alors très bonne transition. Premièrement, je voulais juste parler du succès à l'époque. Il y a quand même des disques qui ont atteint le top 40 en Angleterre. Il y a des morceaux, notamment pour Lush, qui ont atteint les top 10 des classements indépendants, donc il y a quand même un vrai succès public. Il y a notamment Slowdive qui a enregistré à l'époque deux morceaux avec Brian Eno, qui était vraiment encore là, et encore aujourd'hui, mais quelqu'un qu'on voulait avoir pour la partie production. Pas longtemps après, il y a quand même David Bowie qui va aller faire Outside avec lui, donc c'est des gens qui sont quand même écoutés aussi et surveillés. À l'époque aussi, on peut se poser la question pourquoi ça a disparu. Alors il y a plusieurs réponses, plus ou moins évidentes, mais la plus évidente, c'est l'arrivée du grunge et l'arrivée de la Britpop.
Et le grunge, ça a effacé,
le grunge, parce que c'est une réponse beaucoup plus énervée aux mots de l'époque, peut-être, mais en tout cas l'industrie musicale s'est aussi tournée massivement là-dessus, avec des sons de guitare complètement différents, l'utilisation de la batterie complètement différente aussi.
À vendre, c'est plus facile, hein.
Et oui, c'est ça,
c'est beau, je veux dire ça, mais c'est vrai,
c'est plus immédiat, ouais. Et après, c'est ce qu'on explique aussi, c'est les effets de mode, tout simplement. Enfin, au bout d'un moment, on cherche la nouvelle la nouvelle pépite,
le punk a éclipsé le prog, quoi. C'est toujours la même histoire.
Qui a écouté du prog? Non, je plaisante. Non, mais ce qui est surtout vrai, c'est que pour le shoegaze, c'est que les gens sont endormis, se sont jamais réveillés. Donc après, il fallait la génération d'après. Hein. À un moment, il faut dire la vérité.
Ah, c'était une forme extrême de narcolepsie. Donc ouais, d'ailleurs, la Britpop, ça a été vraiment le parent pas si facile à identifier, mais vraiment évident quand tu regardes en fait après coup tout ça, notamment un groupe comme Suede ou un groupe comme Blur. A fait vraiment.
Putain, c'est affreux d'ailleurs, Suède. Je sais pas ce que les gens ont
à dire. Moi, j'aime bien Suède, moi.
Jamais aimé non plus.
Moi, j'aime bien.
Et j'avoue ne pas du tout être.
J'avoue. C'est peut-être parce que c'est un truc de.
Ouais. Peut-être.
Mais voilà, du coup, ça me concerne.
J'ai jamais aimé la Britpop des masses non plus. Et justement, j'aime les groupes de Britpop quand ils font plus de Britpop, genre Blur. J'aime pas les albums
Mais ça veut rien dire, Britpop.
Je mets trop. Quand même
si,
qui
ah,
si. Bah, si, si. C'est un connard qui fait un truc où il fait salut, j'ai les pantalons de chaussée, Ray. Bon, voilà, on a bien compris. Et puis, qui a un bon temps, c'est un putain de hippie, et puis il a pas d'argent.
Mais donc, il y a eu des influences, hein, bien sûr, revendiquées à la suite du shoegaze, donc des groupes énormes hein, qu'on connaît tous comme Radiohead, comme Smashing Pumpkins, comme Nine Inch Nails. Même des choses qui ont été plus éphémères, comme Garbage, par exemple.
Qui disent clairement eux.
Ouais.
D'accord, ok.
Qui revendiquaient leurs influences liées au shoegaze. Si vous écoutez le morceau Soon de Garbage, bah, c'est clairement du My Bloody Valentine dans le son. Hein, alors qu'on n'y est pas du tout à la base.
Enfin, il y a une chanson. Hein.
Ouais, il y a une chanson, mais c'est une manière parmi tant d'autres de voir les petits du shoegaze. Et on entend aussi beaucoup dans le cinéma, notamment dans le cinéma de Greg Araki, hein, ce réalisateur des années 90, début 2000, de Doom Generation ou Mysterious Skin. On voit quelques morceaux de slow dive qui passent et qui ont permis de garder un espèce d'héritage et une trace. Mais je voulais quand même faire un petit paragraphe sur un truc qui est toujours rigolo, c'est que sont-ils devenus pendant en fait cette traversée du désert entre milieu des années 90.
Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là ?
Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là, les My Bloody Valentine Slow Dive and Ride. Donc Kevin Shields, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est le grand Manitou de My Bloody Valentine. En fait, lui, il s'est occupé en tournant.
De créer des tampons.
Non, pas du tout.
J'essaie de deviner.
Des Echo Cup. Donc, il a tourné et joué en tournée avec Primal Scream, avec Yola Tango ou avec Dinosaur Junior.
Ouais, il a pas visé quand même des groupes qui sont devenus géants. Non, alors, mais pas géant,
Shields aussi, c'est un peu différent parce qu'il a eu vraiment le syndrome de la page blanche, quoi,
ouais,
en fait.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
Ça a été forcé.
Il était plus assez triste.
Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'arrivait plus du tout à composer. Et il a mis des décennies avant de sortir le 20, prochain 22
ans. 22 ans d'écart entre le premier album et le deuxième.
Et c'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas faute d'avoir essayé.
Ces heures d'intermittence, elles n'étaient pas là, pas de bien.
Ça bloquait.
Il jouait quand même. Enfin, il était quand même dans des groupes et c'était quand même des bons groupes.
Ouais,
donc ça va, c'est pas non plus une pause horrible.
Donc ce monsieur, en fait, il a profité de l'avance du deuxième album, donc une avance de 250 000 livres, avec un autre label qui n'était pas Creation Records, mais Island Records, pour faire son home studio. Et donc, comme tu l'as dit, il reste en syndrome de la page blanche. Donc entre 93 et 96, sous le nom du groupe, il n'y a que deux covers. Donc on se parle quand même de 4 ans. Hein. Donc en 97-98, 2 ans, il s'isole et il est comparé à des mecs comme Brian Wilson des Beach Boys ou à Syd Barrett des Pink Floyd, dans le côté, lui là-bas, là, il est complètement perché, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'il est en train de devenir fou ou s'il est encore plus en train de pousser son génie, mais la réponse se situe quasiment entre les deux. Et en 99 seulement, il file 60 heures de matos à son label, qui ne sait pas quoi en faire. Donc, en 2008, tournée de reformation, avec plus de 200 000 livres encore là dépensés dans le matériel pour la tournée. Donc, on le voit à Coachella, on le voit à Primavera, etc. Les grands festivals qui sont capables de signer pour ce genre de reformation de groupe culte. Et c'est seulement, en fait, en mars 2021, qu'il a décidé de signer avec Domino Records, donc qui appartient à Sony, et ce qui coïncide en fait avec la redispo de la discographie du groupe, c'est-à-dire en gros un album et quelques morceaux éparpillés à droite à gauche. Donc ils ont mis tout sur des plateformes de streaming, ce qui n'était pas le cas avant, okay. Et ils ont annoncé un nouveau disque qui est arrivé par la suite, donc en 2023. Voilà. Et dont je ne me souviens plus le nom, mais je crois que c'est un
titre. C'est
ok. Le monsieur, gros, il prend tout le pognon, mais juste pour acheter du matos. Parce qu'en fait, il n'est pas gourmand en argent, il est gourmand surtout en expérience.
Après, je pense que aussi, quand tu sors un album qui devient aussi culte,
oui,
aussi
définitif,
aussi genre.
Ah oui, comment faire bien et
comment,
mieux.
Comment passer à la suite. Comment tu dois être un peu tétanisé, quoi.
Et puis, on se parle d'un album qu'il a fait solo. Enfin,
ouais.
C'est le My Bloody Valentine, c'est lui et personne d'autre.
Oui. Il compose absolument tout de A à Z.
Ah ouais, donc si lui n'a pas l'idée, il n'y a personne pour l'aider, quoi.
Ouais. Okay. Donc c'est un peu compliqué. Je voulais aussi parler de Slow Dive. Donc Slow Dive, en fait, ils ont une deuxième partie de carrière assez compliquée lors de leurs premières années. C'est-à-dire qu'en fait, ça a marché, certes. Et après, ils ont eu un virage où ils ont essayé de percer aux États-Unis. En fait, c'est passé par une tournée où ils étaient en première partie de Blur. Donc en 94, Et en fait, ça ne l'a pas du tout fait, mais à tel point, j'ai rarement lu des anecdotes aussi catastrophiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils
mais
étaient...
ils sont envoyés chez ou ils étaient en tournée.
Et en fait, le label a décidé en cours de route de se désolidariser du paiement des frais de la tournée qui était engagée.
What?
Donc en fait, ça a créé un énorme bordel à l'intérieur du groupe. Ce qui fait qu'en fait, ça a amené en fait plus ou moins la dissolution du groupe. Parce que il y avait plus d'entente commune sur le style et certains avaient envie de sortir du shoegaze, certains avaient envie d'y rester.
Il y en avait qui avaient envie de manger, j'imagine.
Voilà. Et donc il y a eu un autre groupe qui a été formé pendant un paquet d'années qui s'appelle Mojave 3 ou Mojave 3. Donc c'est vraiment les membres restants et notamment le batteur qui lui s'est mis de côté. Et en fait pendant des années, mais pendant une quinzaine d'années, on n'a pas du tout entendu parler de Slowdive et on a dû attendre 2013 en fait pour vraiment réentendre parler du groupe sous son propre nom. Entre temps, si certains ont suivi, au début des années 2010, il y a eu un groupe qui s'appelle Minor Victories qui comprenait la chanteuse Rachel Goswell avec un mec des Editors, un mec de Mogwai qui était des énormes fans du groupe. Donc ça a permis aussi, mine de rien, de remettre le pied à l'étrier aux gens
de remotiver les troupes.
Exactement, qui ne connaissaient pas d'un côté public, mais aussi d'avoir un peu d'amour côté musicien.
Puis ils ont fait un virage aussi beaucoup plus pop électro, on va dire, dans les grandes lignes.
Pour leur retour.
Pour leur retour, ouais.
Mais attends, mais quand ils sont revenus en 2013, t'as dit,
ouais.
C'était un retour assez niche quand même. Enfin, ça reste niche, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ceux qui les connaissaient qui ont su qu'ils revenaient. Parce que
c'était moi, un groupe cool quand même.
Même Slowdive, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de connaître, tu vois, alors que ma Bloody Valentine, c'était un truc qui était évident.
Ouais.
C'était partout.
Ouais, Slowdive, pour moi, j'ai connu justement au moment de la reformation. Enfin, j'ai connu Minor Victories, parce qu'à l'époque, ça nous était beaucoup poussé via les labels. Et j'avais eu l'occasion de les voir au Café de la Danse, d'ailleurs, c'était très sympa. Et par contre, Slowdive, j'ai découvert au moment de la tournée des festivals. Ils avaient fait la route du rock et rock en scène la même année, en 2013 ou en 2014. Et pour moi, ouais, c'était même pas une redécouverte, c'était une découverte. J'en avais jamais entendu parler.
Ben,
ça faisait pas partie de la scène que j'écoutais avant, même si dans les groupes qu'on a cités depuis tout à l'heure, dans les groupes influencés, je l'ai connu,
il y en avait déjà
bien entendu, j'ai surponcé les Smashing Pumpkins, mais j'étais jamais allé jusqu'à la curiosité de m'acheter un album de Slowdive, parce qu'à l'époque, oui, messieurs, dames, il fallait acheter des albums en format physique pour découvrir un groupe.
Enfin, voilà. Du coup, c'est plus compliqué, oui, effectivement.
Et nous ne sommes pas nés en 1789. le troisième groupe dont je voulais...
Castor qui raconte des histoires.
C'est ça. Et ensuite, Ride, aussi un itinéraire compliqué. Donc, eux ont complètement disparu de la circulation après 1994 et leur troisième album, Carnival of Light. C'était un process de fabrication tellement conflictuel que donc, les deux cerveaux du groupe, qui s'appellent Mark Gardoner et Andy Bell, ils ont décidé de prendre chacun une face du vinyle. En fait,
pour s'exprimer chacun de chaque côté. Comme ça, pas de compromis, quoi.
Ils étaient tellement en désaccord qu'ils ne voulaient pas que leurs chansons se mêlent.
C'est vraiment un bon groupe.
Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 95, c'est la débandade. Donc, c'est une énorme galère. L'album Tarantula sort en 96, mais ils annoncent directement leur séparation dans la foulée. Et en fait, donc, le bassiste Andy Bell, lui, il ira rejoindre Oasis dès 99.
C'est ça, ce que j'ai dit. Ce nom me parle beaucoup. Donc,
ouais. Et il sera dans Oasis jusqu'à la fin, et il jouera aussi dans le projet BDI de Liam Gallagher jusqu'à la fin. Et donc Ride, en fait, s'est reformé une seule fois à la base pour un EP instrumental en 2001, et ils ont peut-être attendu que Slowdive tranquillement regarde et
ça
surtout,
marche pour eux ou on voilà. Va se planter parce que ça va quand même nous coûter 500 €. J'aimerais bien qu'on perde pas ces 500 €. Okay.
Voilà, ils ont laissé Slowdive prendre le terrain et puis derrière ils ont fait la même en 2015 avec la reformation à Coachella et à Primavera. Et depuis 2017, ils ont 3 nouveaux albums studio, dont un sorti cette année en mars qui s'appelle Interplay.
Plutôt pas mal.
Ça marche bien pour eux ou enfin, je parle en termes de vente, pas en termes de qualité.
Je pense que ça marche
plutôt. D'écoute, du coup.
Je les ai vus il y a quelques années, là, pour la tournée d'anniversaire de Nowhere. C'était à l'Élysée-Montmartre.
Ah oui, c'est pas mal.
C'était, je crois, sold out.
Ouais, on est... C'est une grande salle, donc.
On est plutôt bon, ouais.
On est sur des Cigales et les Montmartre, hein, pour tous les groupes dont on parle depuis tout à l'heure. Donc c'est,
non, parce
c'est
que quand la même dernière fois que ça avait passé, tout le monde s'est... Excusez-moi l'expression, c'est très moche, mais tout le monde s'est branlé là-dessus. Puis en sortant du concert, on a dit, je me suis jamais fait autant chier. Donc, non, mais c'est vraiment ce que j'ai entendu. Moi, j'y suis pas allé, je peux pas vous dire, je suis pas fan. Mais du coup, j'imagine que toi, tu y étais.
Bien sûr que j'y étais.
Non, mais par contre, il faut quand même se dire, autant moi, Slodev, je les ai découverts sur scène, l'occasion de les revoir après.
Ouais.
Et j'ai toujours passé un bon moment pour les raisons qu'on s'est dit déjà sur le style, hein, assez mélancolique, mais si t'es emporté, ça fonctionne. Et c'est vrai qu'elle a une voix qui marche super bien aussi. Donc tu peux rentrer dedans. Par contre, personnellement parlant, le dernier album qui est sorti l'année dernière, je l'ai trouvé excessivement chiant. Après, ils ont toutes les raisons du monde qu'ils expliquent pour expliquer ce pourquoi c'est plus funeste que d'habitude. Et je les ai vus à Icos en live. J'avoue avoir parfois vu passer le temps, mais c'est quand même mieux que la version studio.
Moi, bizarrement, je le trouve beaucoup plus dansant, optimiste. Je sais pas, ce dernier album, il y a des petits trucs pop électro là qui te donnent envie de bouger la tête. C'est clairement le moins bon de leur discographie, mais. Mais c'est une compétition quand même assez acharnée, tu vois, genre de... Ça refait pas un mauvais album. Le plus mauvais de leur discographie, ça reste un bon album, quoi.
Ouais, mais on revient aussi au fait que soit t'es rare, tu sors rien qui te mette 15-20 ans à sortir quelque chose.
Ça évite les albums de merde.
Voilà.
Si t'en as fait deux et qu'il y en a un sur deux qui est une merde, c'est vrai que c'est pas de chance.
C'est ça. Vraiment, tu t'es loupé. En plus, t'as pris ton temps, c'est pas cool.
Saloperie.
Mais...
Exactement.
Rends l'argent. Donc, maintenant qu'on a parlé des origines et puis de pourquoi ça a disparu et de ce qui s'est passé pendant la disparition du mouvement, le dernier topic à évoquer, c'est quand même en plus le plus intéressant parce que le plus surprenant, c'est pourquoi aujourd'hui il y a un revival. Il y a un revival parce qu'il y a eu ces reformations en 2013-2015, mais 2013-2015, mine de rien, c'était il y a 10 ans. Tiens, prenons donc ça dans la gueule. Et ce pourquoi vraiment ça, c'est reparti, pourquoi ?
Ouais, j'attends de voir d'entendre la réponse.
J'en sais strictement rien pourquoi c'est reparti.
Eh bien, je grâce dirais... à TikTok.
Voilà. Donc il y a eu une tendance TikTok.
Comme quoi, c'est vraiment une musique de merde. Non, mais bon, toutes les musiques ont été aidées par TikTok, donc à un moment...
Voilà, écoute, le shoegaze en fait partie également, et c'est quand même super surprenant.
Et dans quel cadre, alors ?
Alors, il y a une tendance TikTok en 2023 qui a rendu le genre plus populaire que jamais, hein, comme ils disent en anglais, mais pour le coup, c'est vrai. C'est pas moi qui le dis, enfin, pas seulement, il y a eu des articles de médias spécialisés là-dessus, notamment Stereogum qui a fait ça en décembre dernier, et qui raconte plusieurs anecdotes, et je vais vous en raconter une en particulier parce que personnellement j'ai trouvé dingue. Donc l'histoire, c'est une lycéenne de San Francisco qui reçoit d'une pote une piste instrumentale qui est typée shoegaze, et en fait elle écoute ça et elle décide de s'enregistrer au chant en utilisant ses AirPods comme micro, vraiment avec une qualité maison de chez maison. À force de bidouiller, elle arrive à un résultat dont elle publie un aperçu sur TikTok. Donc le morceau s'appelle Your Face, son nom d'artiste c'est Wisp, et en fait elle va se coucher, puis elle se réveille le lendemain matin, sa vidéo elle a fait 100 000 vues. Donc quand elle voit ça, elle le débloque, et puis elle se dit, bon bah je vais faire un deuxième aperçu de vidéo pour ce même morceau quoi. Rebelote, deuxième vidéo, 600 000 vues. Troisième vidéo... de cette même chanson, a perçu 1 000 000 de vues.
Elle dit, putain, je viens de créer un style de musique incroyable, personne n'a fait ça avant moi.
Et ce qui s'est passé depuis, c'est que la meuf, elle a signé un deal chez Interscope Records et qu'un an et demi plus tard, on se parle de plus de 59 millions de streams, rien que sur Spotify, pour ce morceau-là, hein, donc Your Face. 1,7 million d'auditeurs mensuels et des tournées américaines qui partent en sold out en quelques minutes. Après, je suis pas allé vérifier la taille des salles, mais on est sur quelque chose qui a vraiment prouvé son potentiel, quoi. Et en plus de ça, bon, quand je lis tout l'article qui est très très long, et notamment ce paragraphe-là qui lui est dédié, je me dis, bon, ok, d'accord, super, merci l'industrie musicale, c'est encore un truc à l'emporte-pièce, et puis derrière ça signe, et ça marche,
ça dénonce ici, hein,
et
ça
en
dénonce.
Fait, putain, J'ai vraiment bien aimé le morceau et j'ai bien aimé les autres morceaux aussi, notamment un morceau qui s'appelle Pandora. Et pour moi, c'est une version vraiment intéressante du shoegaze parce que c'est comment en fait régler les problèmes potentiellement que toi tu peux avoir en tant que shoegaze quand tu trouves ça chiant. C'est-à-dire que t'entends plus de guitare, c'est un peu plus rythmé et potentiellement ça peut du coup faire plaisir et plaire à des gens qui ont peut-être des petits problèmes avec avec le style. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait c'est un cas qui est pas isolé. Je vais pas re-raconter l'histoire parce que c'est à peu près le même délire pour un artiste qui s'appelle Flying Fish qui a suivi exactement le même schéma, donc une personne de 15 ans qui se retrouve à sortir une instrumentale et qui derrière en fait en utilisant un logiciel de musique électronique et une guitare samplée sur MIDI, hop, a réussi à boucler un morceau et pareil, des dizaines de millions de streams, top 25 au Billboard, TikTok, et j'en passe à des billes.
Et puis t'as aussi depuis quelques années un revival années 90 tout simplement, c'est-à-dire oui, genre
dans les fringues,
tout,
aussi, ouais.
Dans les fringues, dans ce qu'on mate à la télé, je sais pas, enfin les séries, les films, l'ambiance, l'esthétique, dans la musique, et du coup le shoegaze n'y échappe pas quoi. Et ça fait pas mal de temps qu'on dit que c'est qu'une phase et tout ça, mais genre je vois toujours des gars et des meufs en jogging fila, des trucs, enfin
oui, champion USA, il y a plein de marques comme ça.
Ouais, bravo, on sait bien pourquoi t'achètes ça, ouais. Ça tombe tranquille.
Il y a un délire grunge, cheveux longs gras, qui est toujours d'actualité.
Ah là, maintenant, il y a le retour des baggy aussi.
Il y a le retour.
Mais avec les baggy, mais qui touchent
les
pas
buffalo,
le sol.
Putain. Les buffalo sont là. Enfin, y a...
Ah ouais, ça, c'est dégueulasse.
Ça l'était déjà en 95.
Ça l'était déjà, oui. Tout le monde était d'accord quand même. Hein.
Du coup, ouais, le shoegaze, il échappe pas. Quoi. C'est aussi, ça fait partie de la vague revival.
Et le cinéma actuel l'utilise de nouveau, surtout aussi, je crois. Hein.
Ouais, bien sûr, il y a eu des les synchronisations, pubs, notamment, je vais en parler juste après, mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un phénomène du coup qui touche les jeunes. Et on sait que bah, quand les jeunes consomment quelque chose, c'est là où ça revient à la mode, bien et sûr. C'est là où ça pète en chiffres aussi. Et que là, pour le coup, le shoegaze, c'est vraiment devenu un truc de jeunes. Ce qui n'était pas le cas depuis 20 à 30 ans. Parce que,
même quand ça a été créé, ce n'était pas un truc de jeunes.
C'était déjà pas trop un truc de jeunes, en tout cas, pas si jeunes, parce que là, on se parle vraiment d'adolescents. Quoi. Donc, il y a 60% des gens, il y a des études qui prouvent ça, hein, qui écoutent des artistes du genre, du shoegaze, qui sont des gens de la Gen Z, donc vraiment les gens qui sont sur TikTok et voilà, qui ne sont pas des vieux. Ça a un impact aussi sur les vieux groupes, parce qu'un groupe comme Slowdive a vu ses streams grimper par 70%, et un autre groupe qu'on n'a pas évoqué, qui s'appelle Blue Smile, mais qui est aussi originaire à la base du début du shoegaze, eux, leurs streams ont gonflé par 250%.
Non, mais enfin, s'ils en avaient 10.
Oui, bah. Non, on se parle quand même. J'ai vérifié. Et pour le coup, on se parle de groupes qui ont vraiment des millions de streams.
Mais en gros,
en gros,
ces mecs-là, de toute façon, ils étaient redevenus. Attention, j'ai du respect pour tous les métiers, mais c'est juste pour faire une image de musiciens. Ils étaient passés peut-être à caissier, fleuriste. Et puis d'un seul coup, leur musique est revenue sur la scène. Ça fait putain! Attends, mais je commence à nouveau avoir un salaire grâce à ça. Et ils se sont dit, bah vas-y, on revient. C'est logique.
Ouais, c'est un peu
par
ça.
Par contre, après, il faut savoir faire de la bonne musique.
Non, mais en fait, ce qui est drôle surtout, c'est que tu pourrais très bien être cantonné à faire que des tournées de reformation.
C'est vrai.
Regarde, genre Slowdive ou Ride tournent entre 2013 et 2015, prennent des énormes chèques de la part de Primavera, de Coachella et de certaines dates, machin. Et ils pourraient se dire, mais de toute façon, on n'a plus le mojo. Ça fait 15 piges qu'on se parle peut-être plus, ou en tout cas plus musicalement.
On a vieilli,
on a la flemme, on a d'autres choses à faire, on a une vie de famille et tout. Pourquoi on se ferait chier à sortir des morceaux, des nouveaux, ouais, alors qu'en fait, dans tous les cas, si on revient tous les deux ans comme ça, ça permet de payer les factures et on est tranquille, tu vois. Et là, en fait, ce qui est hallucinant, c'est que un groupe comme Slowdive, leur album qui est sorti l'année dernière, dont on parlait tout à l'heure, le Everything is Alive, il est arrivé numéro 9 au classement mondial de Spotify des meilleurs démarrages.
Ah ouais ?
C'est quand même dingue, tu vois. Enfin, c'est pas des petits chiffres. Et un groupe qui a un succès qui est quand même assez énorme, même s'il n'est pas connu de tous, comme Beach House, qui est aussi affilié au shoegaze, son morceau, en fait, Space Song, il était sorti en 2015. Mais en fait, il est devenu double platine aux US que 7 ans plus tard, à la fois parce qu'il y a eu cette tendance shoegaze, mais aussi parce qu'il était en jouait dans la série Mercredi sur Netflix, sur le personnage de la famille Adams. Donc voilà, il y a
ça aide.
Et tout à l'heure, on a évoqué un groupe, parce que tu l'as cité, Pierre, un groupe qui vient plutôt de la scène métal, qui est Deftones. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que Deftones est aussi associé à ce nouveau revival du shoegaze. Ça a un impact.
Bah oui, c'est normal, c'est un groupe de métal, mais qui est chiant. Donc du coup, c'est normal qu'il soit associé au shoegaze.
Donc, pour... Donc, Chino, peux-tu nous expliquer ce pourquoi vous êtes associé au shoegaze?
Non, je peux pas répondre. Je sais, le podcast va fermer sinon.
Chino parle français.
Qu'est-ce qu'il est fort, ce Chino. Donc, Chino Moreno des Deftones, le chanteur, a toujours eu d'énormes passions pour des groupes qui ne sont pas du tout du métal. C'est très très connu, que ce soit Joy Division, Duran Duran, Les Smiths, The Cure. Et en fait, ça se sent dans certains morceaux aussi du groupe. Et en fait, sur TikTok, il y a eu 3,3 milliards de contenus tagués sur Deftones.
What?
Et, ouais. Et donc, en fait...
Les jeunes, ils prennent des trucs trop ouf, quoi.
Et en fait, ce qui est hallucinant, enfin, moi, qui m'a complètement choqué, c'est que du coup, tu as des titres de fond de catalogue de Deftones que ne sont pas, tu vois, les tubes qu'on connaît tous.
Bon, après, c'est un milliard de pierres aussi. Du coup, ça fausse la balance, les contenus sur TikTok de Deftones. C'est un milliard à cause de lui, donc bon.
Je fais rien de ma vie, vous. Maintenant, vous savez ce que je fais.
En fait, Pierre...
Parce que j'ai envie qu'il puisse vivre, hein, ce Chino Moreno. Il a jamais gagné sa vie, maintenant, grâce à moi.
Pierre a investi dans des bots pour faire en sorte que Deftones devienne milliardaire. Donc, il y a des morceaux comme Cherry Waves, Sex Tapes, Rosemary, ou encore la cover des Smiths, Please, 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 Let Me Get What I Want, qui sont pas du tout les tubes de Deftones, qui ont remonté.
Et puis qui sont pas représentatifs vraiment non plus de ce qu'est Deftones, en vrai.
Absolument pas. Et du coup, ces trucs-là, enfin, c'est pas des trucs, hein, c'est des chansons, mes enfants, c'est remonté dans les classements de streaming, quoi. Et ça fait partie...
3 milliards, mais il doit être content, le père Moreno. Hein.
Bah, sur TikTok, tu sais, ça peut vite péter, en fait. Soit ça marche pas, soit ça marche, et quand ça marche, ça explose.
Ça rémunère.
Oui, en plus, ça rémunère, mais même en France, tu vois, tu peux faire des centaines de millions de vues, alors qu'on est dans un pays qui a même pas 70 millions de personnes. Donc, les impressions...
Une arnaque dernière.
Peut-être une arnaque.
Blanchiment d'argent, tout ça.
Oui, et puis beaucoup de bottes. Et en fait, ce qui est super drôle, quand même, c'est que ça a un impact aussi sur le disque Koino Yokan de 2012, qui est plus calme, plus éthéré, hein, quand on revient aux adjectifs qu'on a collés au shoegaze. Et ben voilà, maintenant, c'est un disque qui est ressorti aussi au nombre d'écoutes. Donc je m'attendais pas du tout, en préparant ce podcast, à retrouver le nom de Deftones et autant d'incidences statistiques.
C'est pour ça qu'ils s'excitent à faire ces autres groupes. Du coup,
ouais, parce que
ils se disent, je vais essayer de profiter cette vague-là, alors que j'ai pas envie que Deftones soit peut-être associé à ça.
Tu as raison, et c'est vrai qu'un groupe comme Crosses, qui l'a fait revivre là pas mal ces derniers temps, et qui sera d'ailleurs en tournée dans très très bientôt.
Il fait un Trianon qui fait
le Hellfest aussi. Et de ce fait, ouais, c'est vrai que tu as raison, c'est peut-être pour le goût de l'argent.
Oh, bah, c'est comme tout le monde, hein. Ça par contre, à chaque fois je me fous de la gueule des gens qui sont là pour le pognon, mais je veux dire, quand on te propose des thunes, tu dis pas non. Je préfère être à la rue, parce que je suis quelqu'un de brillant. Va-t'en enculer. Bon, ouais, vas-y, pardon.
Oui, non, mais t'inquiète.
Il a l'habitude.
Tu sais. Non, je m'excuser pour les gens qui écoutent.
Non, je dirais même qu'on est là aussi pour ça. Le résultat de tout ça aussi, c'est que c'est un truc que tu as évoqué tout à l'heure, Pierre, c'est est-ce qu'il y a des variantes, des alternatives au shoegaze, des genres qui ont été créés par rapport à ça? Alors oui. Il y a des groupes comme Always avec leur album Blue Wave qui ont créé une espèce de shoegaze pop. Le groupe Alceste, qu'on considère comme étant du post-metal, post-shoegaze ou black gaze. Et aussi,
c'est vrai qu'on fait les noms de styles musicaux avec gaze derrière. C'est, j'ai oublié ça.
Ou post, tu mets post et c'est bon, ça.
Ça rentre aussi dans le. Dans
je dirais que ça passe comme une lettre à la post.
Non, moi, c'est à moi les blagues nulles. Hein. Toi, t'es censé être l'intello. Si on commence à mélanger les personnages, ça va pas le faire.
Non, il aime bien en faire une de temps en temps en toute fin de podcast. Sa manière
Je croyais que tu parlais de quand il lâche la caisse.
Post-caisse.
C'est assez le musique particulier, mais c'est toujours très agréable.
Pas de pédale à effet, mais il n'y a pas besoin.
Il n'y a pas besoin.
Et le dernier.
Le dernier. Vous avez la même image que moi ou pas?
Toujours, plein d'images. Et le dernier groupe qu'on peut citer dans les autres styles associés au shoegaze, c'est le dernier album de Def Heaven, Infinite Grey Night, qui est considéré comme du heavy post shoegaze par certains. Donc voilà.
Moi, j'ai toujours appelé ça du shoegaze en France, parce que bon. arrêter quoi. Bah, oui, alors que... c'est du tuk 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 alerte robotique. Donc voilà, non mais c'est bon. Hein. Les QAnon sortaient d'ici.
De l'alien au shoegaze. Donc voilà, pour tout vous dire que le shoegaze a beaucoup bougé, beaucoup évolué.
Il n'a jamais été aussi. C'est vraiment mis dans le shoegaze.
Bah,
la dream pop,
les Cocteau Twins et tout ça, qui est, on va dire, le représentant.
C'est vrai que c'est très 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 long.
Bah ouais, ça mais prend ce son petit côté, c'est
jonglage.
Bah c'est les gens du cirque. Hein. Non, on les aime bien.
Vous ne voyez pas les gestes de Pierre, mais là il était vraiment sur un jonglage. Ces études en art du cirque qui reviennent.
Le post-cirque gaze.
En fait, tout ce qui te fait rêver et qui te fait regarder par la fenêtre du bus quand il pleut. C'est
mais que
shoegaze.
Tu vois pas parce qu'en
tout ce qui marche dans cette catégorisation, et ben c'est du shoegaze. Voilà.
Il y a la scène française qui a beaucoup été présente sur le Sarwell gaze aussi, mais ça, pour le coup on va pas en parler parce qu'on préfère regarder ça pour nous. C'est quelque chose qu'on a beaucoup trop vu et qu'on a plus envie d'entendre.
J'aimerais qu'on soit
Zaz qui fait du shoegaze, ça peut être pas mal.
Tu paries qu'elle en a déjà écouté. C'est ça le truc en fait, c'est que aussi, bah oui. C'est ce genre d'artiste, tu lui dis.
On a réussi à parler de shoegaze sans citer Dive aussi.
D'ailleurs, regarde beaucoup ses chaussures, mais elles sont trouées. Pardon, excusez-moi.
Dive, oui, d'ailleurs. Excellent dernier album.
Ah, j'ai pas encore décidé sur ce que je pensais de ce dernier album.
Mmh. Alors justement, c'est vraiment tout ce que tu m'as dit de cet album quand tu l'avais écouté.
Justement, j'étais hyper déçu.
Quand tu sais pas ce que t'en penses, en général, c'est bon signe.
Ouais, mais là, je commence à avoir trop d'écoute au compteur pour savoir vraiment ce que j'en pense. Et je pense du côté où je trouve ça chiant. Alors, et ça me brise le cœur parce que j'adore Dive à la base. Mais là, je sais pas. Enfin, justement, là, le côté mur du son à la shoegaze avec la voix qui est impliquée de cette manière avec les instruments, moi, ça me parle plus. Et il y a ce côté qu'on n'a pas évoqué avec le shoegaze, c'est que c'est un mur du son, mais aussi un bloc. Donc des fois, t'écoutes l'album, et si t'es quelqu'un qui aime bien avoir des petits pics et des chansons qui vont pouvoir ressortir pour ensuite t'amener vers la suite du truc où t'as potentiellement pas accroché tout de suite, bah c'est foutu. Et c'est un peu l'effet que j'ai sur ce dernier disque de Dive. Il y a peut-être deux morceaux pour moi qui ressortent plus que les autres, mais j'ai vraiment du mal en fait à rentrer dedans sinon. Et j'ai vraiment du mal à me dire tiens, je vais l'écouter en entier de A jusqu'à Z. Je suis pas encore assez passionné par ce qui se passe là-dedans pour vraiment accrocher quoi.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, peut-être que dans 6 mois, je vous dirai que c'est le 10 de l'année, mais pour l'instant, c'est pas le cas.
Ce qui serait intéressant, c'est aussi de savoir les gens qui sont vraiment hyper fans. Bon, toi, Nicolas, t'aimes bien ce style de musique, mais c'est pas ton style préféré.
Non.
J'aimerais bien savoir, parce que je connais personne, en fait, non, c'est le style préféré. Non pas que ce soit rare, mais c'est juste que j'ai jamais eu une discussion, toi, dans un bar où quelqu'un me dit, ah, mais moi, j'écoute que du shoegaze. Et j'aimerais bien savoir quel est globalement l'intérêt. Tu le dis, il y a la tristesse, la mélancolie, il y a ce moment de calme, peut-être d'introspection, où tu te sens pas bien, où t'aimes bien te torturer un peu en même temps, mais...
Les voix aussi, qui sont...
C'est très religieux, un peu.
Ouais, il y a un peu ça, ouais. Et le fait de vouloir être tout simplement englouti, littéralement, par du son. D'ailleurs, en live, t'as intérêt à ramener tes bouchons, quoi, quand tu vas avoir du shoegaze, parce qu'en général, c'est des sauvages,
son,
quoi.
Ouais, ça joue vraiment très fort. Mais si, on connaît au moins une personne en commun, je crois, qui écoute beaucoup de shoegaze.
Qui est en ce moment même en vacances en France.
En tout cas, qui travaille au Supersonic. Mais,
non, c'était pas cette personne-là
que tu peux retrouver dans beaucoup de concerts de shoegaze en général et qui a une sensibilité pour ça. Je pense que c'est le côté émo qui prédomine en fait.
Alors j'allais dire ça tout à l'heure, j'ai pas osé parce que je me suis dit je vais me faire couper la tête par Nicolas et qui va dire comment ça tu peux comparer l'émo au shoegaze. Il y en a c'est des vendus et des merdeux alors qu'il y en a c'est des vrais artistes. C'est ce que t'allais dire?
Pas du tout. C'est pas une insulte émo. Hein.
Ça dépend quel émo, c'est comme tout.
Oui mais c'est en tout cas ils sont tous bruns. Merde.
C'est vrai.
C'est vrai que ça. Même s'ils sont pas bruns à la base, ils deviennent tous bruns quand même. Hein. Je crois qu'il y a une malédiction.
Et en guise de conclusion, Parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous rajouter.
Comme le shoegaze blond. Je défie n'importe qui. Et
nous
puis.
Voulons,
nous
voulons un shoegaze peroxydé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça?
Oh punaise. Qu'est-ce que je suis en train de répondre à ça?
De toute façon, c'est toi qui fais la conclusion, c'est pas nous. Donc,
Ah si, j'ai une conclusion, mais je tiens à vous laisser parler.
J'ai pas vraiment de truc à rajouter, juste peut-être un conseil album que j'entends jamais dans une conversation shoegaze, c'est l'album Methodrone. Du Brian Johnston Massacre, qui est, je crois, leur deuxième album, donc ça date, et qui est splendide. C'est avec Loveless, c'est mon album shoegaze préféré. C'est un son qu'ils ont jamais vraiment répliqué par la suite. C'est vraiment les tout débuts. Et il est, mais genre, incroyable. Quoi. C'est orgasmique. C'est vraiment... Là, pour le coup, on est dans le shoegaze pas chiant. Le shoegaze banger, quoi, vraiment. Et avec le mur du son, le même aspect comme ça, mais dément. Donc vraiment, Methodrone du BGM. Si vous connaissez pas, je vous conseille cet album plutôt que ce qu'on a, enfin, les mastodontes que un peu tout le monde, entre guillemets, connaît, ou qui, du moins, sont cultés.
Bon, tapez shoegaze dans Google, vous récupérez le nom de groupe et c'est tout, quoi. Enfin,
c'est... Ouais, voilà, du coup, c'est vrai. C'est pour ça que Methodrone, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, un peu plus niche.
Mais c'est bien que tu en aies parlé, parce que ça fait partie, en effet, des héritiers du shoegaze qui sont pas forcément évidents, mais qui sont souvent évoqués, par contre, quand on parle de recherche sonore, d'utilisation des pédales et puis d'ambiance très planante. Parce que le BGM, pour le coup, les associe plus au psyché,
ouais, de manière générale. Ouais, parce que c'est un peu ce qui... C'est vraiment complètement différent. Les deux premiers, là, sont vraiment shoegaze pur jus, quoi.
Allez-y donc, c'est pas tous les jours que je dis allez-y sur BGM, surtout pas en live.
Mais tais-toi donc.
Ces dernières années.
Mais tais-toi donc.
Non, mais ces dernières années, j'ai appris de résoudre quelques problèmes.
Quelques problèmes lesquels?
Tu veux dire la personnalité de.
Mais BGM, c'est ça
principal.
Qui est bien, c'est tu tires à pile ou face, quoi, avant un live. Ça rend dangereux le rock'n'roll, c'est ça qui manque.
Ouais, tant qu'il y a un tambourin, tout va bien pour lui.
Oh là 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 là.
Et toi, Pierre, du coup, quelque chose à ajouter?
Moi, je suis ravi parce que des groupes qui utilisent autant de pédales, ça me fait plaisir. Bah quoi, c'est vrai, c'est beau.
Je l'ai attendu des petits.
C'est technique. C'est vrai que c'est joli à voir.
C'est pas facile à gérer, mais du coup, avec des pieds, des mains, et puis tout le reste, on peut vraiment faire des sacrés gros sons. Ce qui m'intéressait dans tout ce que tu as dit, c'est vrai que c'est une génération plus jeune que celle qui les a créés, à l'époque où ils l'ont créé, évidemment. Mais ils sont très jeunes, ils écoutent ça, et je trouve ça très intéressant, parce que c'est quand même pas une musique facile, mais en même temps, c'est vrai qu'elle est très émotionnelle. Et ça prouve peut-être aussi que la situation n'a pas changé.
Que les gens ont toujours du cœur.
Du cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'ils sont bien dans la chialade, ouais, c'est pas mal aussi.
Moi, ce que je trouve hyper intéressant, et pour le coup, c'est un des sujets qui m'a le plus surpris dans la préparation de podcast, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour être honnête, quand j'ai préparé le sujet, j'attendais en fait la fin. C'est qu'en fait, j'ai eu cette idée-là parce que je commençais à en avoir marre d'entendre des groupes. Oui. Qui se revendiquait, en tout cas d'un point de vue sonore, du shoegaze, notamment à cause de l'album de Dive, sur lequel je suis encore un peu perplexe, mais aussi sur plein d'autres groupes que je ne vais pas mentionner, que je connaissais déjà d'avant ou pas d'ailleurs. Et je commençais à en avoir marre d'avoir ce truc, tu sais, toujours un peu lancinant, plombant, sans trop d'aspérité, c'est ça. Et en fait, c'est comme tout, il y a du bon et du mauvais shoegaze, et vous l'avez dit en plus au début, donc ça, j'ai trouvé ça très marrant, c'est que soit c'est très bien fait et tu rentres dedans, soit c'est très chiant. Et en fait, j'étais hyper surpris de rencontrer tout cet engouement qui part de TikTok. Donc déjà, de base, quand t'es un vieux con comme moi et qui a un regard comme ça, qui te dit « c'est un peu de la merde », et en fait, de découvrir que ces nouveaux artistes en fait, sont bons et font de la musique hyper intéressante. Et en plus de ça, j'ai découvert aussi d'autres playlists sur Spotify, notamment une qui s'appelle « Distorted Shoe », qui est vraiment...
Ah bah oui, j'ai connu celle-là. Je la connais.
Qui est vraiment hyper cool. Bon, après, elle est énorme, elle dure 8 heures. Hein. Mais il y a beaucoup.
T'es mort
Bah, tu dors, voilà, c'est la durée d'une nuit. C'est bizarre d'ailleurs. On recommande de dormir 8 heures et cette playlist dure 8 heures.
Ah, et ça ressemble à un ronflement.
Voilà. Et franchement, je vous la conseille parce qu'il y a vraiment des artistes super cool dedans. Et c'est vraiment shoegaze et
c'est
variantes très très éloignées ou très très proches. Et c'est hyper cool. Voilà. Donc allez-y et bravo les jeunes, hein, puisque vous avez réussi à faire en sorte que le shoegaze est encore plus utilisé, écouté.
Merci de refaire venir en truc chiant. Super. Ouais, bravo. Vraiment, vous servez vraiment à rien.
On est encore jeunes. Allez, allez, allez. On fait partie du gang.
Non, non, moi je suis très vieux, mais c'est vrai que je trouve ça cool. Et bravo les jeunes, de toute façon, dans tous les cas.
Voilà.
Ce sera ma conclusion, je suis désolé. Bah, attends, vous regardez pas comme des merlans.
Ah, hein. Bravo les jeunes, merci le shoegaze et merci à vous.
Exactement.
Non, mais prochaine. Un peu de tendresse, je m'y attendais pas, c'est pour ça.
Je te ferai un hug, vas-y, viens.
Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées : Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.